Bienvenue dans les chemins de l'ergothérapie, issu du collectif Occupe ton ergo. C'est une émission qui vise à rendre la littérature en ergothérapie et en sciences de l'occupation plus accessible. Pour cela, je prends un article relié à l'ergothérapie et ou aux sciences de l'occupation. Je vous en parle et je vous dis aussi ce que j'en ai pensé. Les liens avec la pratique de l'ergothérapie, l'évolution de la profession et des professionnels que j'y vois. Je suis Clémence et nous allons finir notre série sur la pratique communautaire avec l'article de Cédrine Jouve, Marie-Hélène Lévesque et Mélanie Levasseur, publié dans la RFRE, la revue francophone de recherche en ergothérapie, en 2022, qui s'intitule « Facilitant et obstacles à l'ergothérapie communautaire en France, vers l'élargissement du champ de pratique des ergothérapeutes ». L'idée avec cet article, c'est de conclure la série. Après avoir regardé ce que l'on entendait par l'ergothérapie communautaire au Québec dans les années 2000, puis avec une perspective plus australienne, qu'en est-il de l'Europe? Et plus spécifiquement là de la France, mais dans quelle perspective on s'inscrit et aussi est-ce que c'est aisé ou pas de développer une telle pratique compte tenu du contexte sociopolitique spécifique comme celui de la France? Donc c'est un article que j'ai trouvé facilement, puisqu'il est dans la RFRE, et que c'est une revue dont nous avons déjà parlé, qui publie des articles francophones autour de la recherche en ergothérapie ou en sciences de l'occupation. C'est une revue scientifique, revue par les pairs, pour les ergothérapeutes. Tous les articles y sont en français et en libre accès. Le lien est dans la description, mais vous n'aurez pas de peine à retrouver cet article. Concernant les autrices de cet article, Cédrine Jouve, elle est ergothérapeute, clinicienne. Elle exerce en France à 15G, en centre de rééducation. Marie-Hélène Lévesque est ergothérapeute. Elle a également un master issu de l'école de réadaptation de Sherbrooke et travaille au centre de recherche sur le vieillissement. Mélanie Levasseur est également ergothérapeute et travaille au même centre de recherche sur le vieillissement en tant que docteur. Elle est donc également rattachée à la faculté de médecine et de réadaptation de Sherbrooke au Québec. Les présentations avec l'article sont faites, donc passons tout de suite à son contenu. Dans l'introduction, les autrices apportent l'importance en santé publique de lutter contre les inégalités sociales de santé. Ces inégalités sont renforcées, dans certaines communautés, par un manque d'accès aux ressources. Elles sont présentes dès le plus jeune âge et affectent la santé sur le court, moyen et long terme. Ces inégalités sont multifactorielles et induisent des situations d'injustice occupationnelle. Puisque l'on reconnaît l'occupation comme un droit humain et comme un déterminant de la santé, les ergothérapeutes ont une part à prendre pour favoriser la justice sociale et la justice occupationnelle. Ainsi, les ergothérapeutes sont encouragés à développer d'autres interventions permettant de favoriser la promotion de la santé, telles que le champ de la santé communautaire. Les autrices parlent alors d'ergothérapie communautaire ou d'ergothérapie sociale qui semble émerger. Cette émergence s'appuie notamment sur un changement de paradigme où l'aspect biomédical et individualiste évolue vers une approche plus environnementale, sociétale, qui cherche à lutter contre les injustices occupationnelles. L'ergothérapie communautaire est donc à cheval entre le sanitaire et le social, car est centrée sur la personne et cherche à promouvoir la santé et le bien-être des individus au travers des occupations, aussi bien individuelles que collectives. La pratique communautaire, ou la pratique de santé communautaire, tient à promouvoir le pouvoir d'agir des personnes, la participation et la gestion autonome des individus, des familles, des groupes, des communautés ou de la population. La pratique communautaire de l'ergothérapie apporte des bénéfices à différents niveaux. L'engagement des ergothérapeutes auprès des populations permet de diminuer les comportements à risque, améliorer la situation socio-économique ou encore réduire l'agisme, nous disent les autrices. Mais le manque de ressources humaines rend difficile l'application de ces ambitions, ainsi que le manque de ressources financières. Après cette introduction, les autrices nous parlent de la recension des écrits sur le sujet. La pratique dans la communauté est répertoriée depuis le début du XXe siècle aux États-Unis, notamment où l'idée est alors de mettre ensemble les personnes, les communautés et les organisations pour agir en commun, tendre vers une meilleure qualité de vie et produire de la justice sociale. L'Association américaine des ergothérapeutes a pris position plusieurs fois sur l'importance d'agir en termes de prévention et de promotion de la santé. Cela s'est traduit par des décisions politiques nationales aux États-Unis, avec notamment comme priorité les déterminants de santé, l'équité en santé et la littératie en santé. En lien avec cela, la pratique de l'ergothérapie continue, aux États-Unis, d'avoir une approche préventive auprès d'aînés, tel que le modèle Lifestyle Redesign. Au Canada, et plus particulièrement au Québec, le concept de santé communautaire s'emploie dans une perspective de santé publique, notamment dans les CLSC, les centres locaux de services communautaires, avec une action des ergothérapeutes très individualisée et peu pensée en termes de promotion de la santé. Pour modifier ces pratiques et agir au niveau de la promotion de la santé, il faut agir sur les déterminants de santé et s'appuyer en tant qu'ergothérapeute sur des leviers systémiques et institutionnels. Les autrices nous expliquent aussi que, depuis les années 1970, l'enseignement et la recherche en ergothérapie au Brésil a développé une pratique orientée sociale et avec un engagement politique au niveau des droits humains et des enjeux sociaux. Avec l'idée que les ergothérapeutes doivent agir au niveau des inéquités économiques, sociales, ethniques et de genre, avec des interventions communautaires, régionales, notamment envers des populations exclues et ou précaires. Au Royaume-Uni, les difficultés économiques et financières de ces dernières années ont conduit à un virage préventif dans le monde de la santé, dans les milieux communautaires, au lieu des services hospitaliers. Des pratiques de santé orientées vers l'amélioration de la santé, le bien-être, dans des situations socio-économiques ou psychosociales se sont développées. Et les ergothérapeutes, entre autres, se sont engagés dans ces nouvelles pratiques, avec, par exemple, dans l'article, une collaboration étroite entre les ambulanciers et les ergothérapeutes pour intervenir directement en cas de chute chez la personne âgée et éviter au mieux les hospitalisations. En France, le terme communautaire est peu utilisé et a politiquement mauvaise presse. Les autrices nous parlent d'une loi en 2002 qui a cherché à plus inclure les usagers dans le système de santé. Au travers de cette loi, nous disent les autrices, on retrouve une volonté plus forte de faire participer les usagers au système de santé, plus en accord avec des valeurs de l'ergothérapie communautaire. Même si les ergothérapeutes français s'engagent plus dans des pratiques sociales, on retrouve des freins, tels que le modèle biomédical qui régit le système de santé actuel. Mais il est aussi à noter que le contexte des ergothérapeutes ayant une telle pratique est peu connu et cette étude cherche à identifier les éléments facilitant et limitant le développement d'une pratique communautaire en France. Après cette recension d'écrit, abordons la méthode employée. Les autrices ont réalisé une étude qualitative, centrée sur la personne et son discours, pour accéder directement aux connaissances expérientielles. Ainsi, les entretiens semi-directifs ont été conduits par appel ou visio. Ils ont été enregistrés puis retranscrits en verbatim. L'étude a reçu une validation du comité d'éthique et les entretiens ont fait l'objet d'une demande de consentement au préalable. Pour le recrutement, un réseau social a été mobilisé, de même que l'Association nationale française des ergothérapeutes, l'ANFE, et des contacts directs avec des personnes connues sur cette thématique. Cela a conduit à 32 personnes. Parmi les critères d'inclusion, il y avait être ergothérapeute, qui pratique depuis au moins 3 mois en ergothérapie communautaire. Cela a conduit à la non-inclusion d'un certain nombre de personnes et un grand nombre n'ont pas donné suite. Cela a abouti donc à s'entretenir avec 7 ergothérapeutes, majoritairement des femmes, donc l'ensemble des résultats seront formulés au féminin. 6 d'entre elles avaient une formation supplémentaire, soit en gestion d'organisation sociale, une maîtrise en sciences de l'occupation et en ergothérapie, ou encore via une maîtrise en santé publique, orientée vers la prévention et la promotion de la santé. Le faible nombre de participantes n'a pas permis d'atteindre une saturation des données. Le guide d'entretien utilisé a été construit à partir du cadre consolidé pour la recherche sur la mise en œuvre qui permet de prendre en considération les facteurs influençant la réussite de l'implantation. Les questions étaient donc ouvertes par rapport aux éléments favorables et aux obstacles et a été validée par 3 experts en recherche qualitative et en ergothérapie communautaire. 5 domaines étaient alors abordés. Pour l'analyse des données, 2 personnes ont participé. Le premier codage a été réalisé par la première autrice, puis révisé par l'autrice senior. Ce codage était par mots-clés, thèmes et sous-thèmes. Une double lecture a permis de faire émerger les éléments clés et de les valider. Passons donc aux résultats. La première partie de ces résultats s'attache à la définition de l'ergothérapie communautaire. Il y avait une divergence dans la définition, voire même dans le nom donné à leur pratique. Le terme communautaire n'étant pas valorisé en France, son emploi pour décrire une pratique interrogeait la compréhension de cette pratique. Donc, les répondantes parlaient d'ergothérapie sociale, d'ergothérapie collective ou de santé de proximité. Ensuite, dans la définition d'une telle pratique, les répondantes ont pu s'entendre que ça se réalisait en dehors des institutions. C'est aussi une pratique qui doit se construire sur un modèle horizontal, laissant une grande place à la participation et à la prise de décision des usagers et des usagères. L'ergothérapeute est là en tant que facilitatrice. En fonction des personnes interrogées, l'idée de s'appuyer sur la science de l'occupation était mise en avant. Cela concernait également des populations vulnérables à risque d'injustice occupationnelle, comme des situations d'exclusion, de précarité, telles que les demandeurs d'asile. L'idée d'une telle pratique serait de s'élargir, de s'éloigner du champ du handicap et du biomédical, et de s'étendre vers d'autres populations. Les participantes ont aussi parlé de l'importance du lien avec les collectivités territoriales et les mairies pour engager l'ensemble des acteurs et actrices concernés lorsque l'on travaille avec ces populations. Les répondantes ont aussi abordé l'importance de la promotion de la santé, que ce soit au travers des définitions de l'OMS ou de la Charte d'Ottawa. Elles semblent toutes dire le besoin de changer d'approche et viser la réduction des inégalités de santé. Maintenant, abordons les éléments facilitants ou limitants le développement de l'ergothérapie communautaire en France, retrouvés au travers des entretiens conduits. On retrouve ainsi, en tant que facilitant, les caractéristiques de l'intervention et les individus impliqués. Et comme obstacle, le contexte interne, le contexte externe et le processus d'implantation. Ces catégories sont issues du cadre consolidé pour la recherche sur la mise en œuvre utilisée dans la grille d'entretien. Mais regardons d'un peu plus près ces catégories. Lorsque les autrices parlent des caractéristiques de l'intervention comme facilitant, c'est au regard de l'adaptabilité de cette pratique nouvelle et flexible. Certaines s'appuient également sur des données probantes et démontrent la force et la qualité d'une action de prévention. Il faut toutefois reconnaître que c'est une pratique complexe où peu de milieux laissent la place aux ergothérapeutes et peu de formation est transmise à ce sujet. Je vais braser un peu l'article, mais pour rester sur des éléments reconnus plutôt comme favorisants. Les répondantes ont parlé des individus impliqués dans le développement. Comme les ergothérapeutes auraient une connaissance spécifique des valeurs qui correspondent bien à la pratique communautaire, les ergothérapeutes seraient de très bons professionnels pour développer cette pratique, notamment grâce à notre facilité à travailler en interprofessionnalité. Par contre, l'absence de connaissances ou de prise en compte des enjeux relatifs à la justice occupationnelle serait un élément obstacle. Parmi les grands obstacles identifiés, les plus prégnants, et là je reprends le fil de l'article, il y a le contexte interne. Même si l'ergothérapeute serait très compatible avec une telle approche, le climat d'implantation n'est pas encore là, et il y a des ressources limitées en termes de lieux d'exercice et d'apprentissage, mais aussi en termes de professionnels. Lorsque le contexte externe est abordé, c'est également comme un frein, car demande un engagement dans des politiques de santé orientées vers la prévention et la promotion de la santé. Et cela demande un budget fléché et qui ne correspond pas actuellement aux positions politiques identifiées par les participantes. Et pour finir, le dernier obstacle relevé correspond au processus d'implantation. Aujourd'hui, c'est une implantation discrète des ergothérapeutes dans cette pratique, pour qui il serait nécessaire de planifier, recenser les lieux, les structures dans lesquelles ce type de pratique pourrait s'épanouir. Les résultats sont maintenant tous présentés. Donc parlons de la discussion. L'étude ici conduite cherchait à rendre compte des facteurs limitants et facilitants pour développer l'ergothérapie communautaire. Déjà, les participantes définissaient l'ergothérapie communautaire comme une pratique spécifique qui s'appuie sur la science de l'occupation et où les interventions sont réalisées en dehors des institutions, auprès des individus issus de communautés voulant prendre part à leur propre santé. Il est nécessaire que ces interventions aient un aspect participatif et fassent appel à l'expertise des usagers et des usagères et que ce soit directement orienté vers la promotion de la santé. Dans cet article, les autrices précisent qu'il y a un peu plus de facteurs favorisants que de facteurs limitants, le développement de l'ergothérapie communautaire. Toutefois, ces obstacles sont inhérents au système de santé français. Dans les obstacles, on retrouve notamment le terme de « communauté » et la diversité des définitions et représentations qu'il comporte. De plus, l'aspect très médico-social semble rendre le financement difficile. La formation est aussi limitante dans son approche biomédicale. L'utilisation de la science de l'occupation semble faciliter cette pratique en apportant un regard spécifique et a permis notamment aux États-Unis de développer des pratiques de prévention primaire. Cette étude souligne également l'importance des politiques de santé, et notamment le développement de lieux de financement et des politiques de santé qui s'orientent vers la prévention de la santé et la promotion en vue de réduire au maximum l'apparition de maladies pouvant être évitées par ces moyens. En ce qui concerne les forces et les limites de cet article, les autrices soulignent la rigueur dans l'application d'une méthodologie qualitative. Toutefois, le faible échantillon n'a pas permis une saturation des données et ne permet pas de généraliser ces résultats. Les contraintes temporelles et humaines ont également entraîné une certaine limite à cette étude. En conclusion, cet article a choisi d'identifier les facteurs obstacles et favorisants du développement d'une pratique communautaire de l'ergothérapie en France. C'est une pratique qui semble flexible et adaptable, ainsi pouvant être facilement implantée. Sauf que les connaissances, les compétences et l'engagement des ergothérapeutes dans cette pratique est plutôt faible. Il est ainsi important de développer des connaissances, formations et informations en ce sens. Cet article est fini. Passons aux remarques que je peux faire. Alors, j'ai plusieurs remarques sur cet article et je ne suis pas très à l'aise. Et pour dire vrai, j'ai même hésité à changer d'article. Puis je me suis dit qu'en fait c'est aussi ça, la science. Il est possible de ne pas être d'accord, de critiquer, à condition que ce soit constructif et argumenté. Alors, je vais tenter de le faire, et si vous voulez partager vos points de vue, c'est vraiment avec plaisir. Ma critique va se construire à partir du texte, en m'appuyant sur des éléments. Cela ne met en rien en cause la qualité et les compétences des personnes qui ont produit cet article. Et ce que je raconte peut tout autant être mis en question. C'est comme ça que la science fonctionne. De façon générale, dans cet article, je trouve que ça manque de lien. Par exemple, lors de la recension des écrits, les différentes pratiques sont présentées en fonction des pays. Mais j'ai pas trouvé de transition ou de lien entre ces différentes pratiques. J'entends par là que, maintenant que j'en sais plus sur comment ça se passe ailleurs, j'ai du mal à faire le lien avec la pratique communautaire ou à comprendre, à partir de ces différents exemples, qu'est-ce que c'est que la pratique communautaire. Je trouve aussi que ça manque un peu de recul sur l'aspect culturel, socio-culturel, qui conduit au développement de ces pratiques. C'est un peu abordé, et surtout au Royaume-Uni, quand on parle du contexte d'inflation, de réduction des coûts nécessaires et donc de réduction des hospitalisations. Mais encore là, avec cet exemple, est-ce qu'on est vraiment dans une pratique communautaire? Cette définition m'a vraiment manqué. Essayer de faire émerger à partir de tous ces écrits à quoi ressemble, ressemblerait, pourrait ressembler une ergothérapie communautaire. Est-ce qu'il est nécessaire d'essayer d'en faire un tout ou pas? Est-ce qu'on peut accepter d'avoir différents types d'ergothérapie communautaire? Je ne sais pas du tout la position des autrices et par conséquent, je ne sais pas du tout où est-ce qu'elles veulent nous emmener après dans la suite de la réflexion dans l'article. En plus, si vous avez écouté les épisodes précédents, on avait deux perspectives différentes d'une pratique communautaire et comment l'ergothérapeute s'y inscrivait. Là, c'est vraiment plus nébuleux. J'aurais aussi une remarque sur l'aspect contextuel. Ça a été dit que la place des politiques de santé est importante. Et comme le cadre de l'article, c'est la France, il m'a semblé qu'il y avait quelques lacunes. La loi de 2002 citée traite de la rénovation de l'action sociale et du statut de certains droits pour les bénéficiaires de l'action sociale et ou médico-sociale. Mais j'ai peine à associer ça avec une pratique de santé communautaire ou une pratique d'ergothérapie communautaire. Puis, c'est une loi qui a 20 ans. Je connais pas les lois spécifiques à l'action sociale, mais pour ce qui est du médical et du médico-social, en France, il y a eu plusieurs lois depuis 2002 qui ouvraient la porte à des pratiques plus spécifiques, à des financements plus orientés vers la prévention. Après, il y a aussi le fait que les deux dernières autrices sont canadiennes, que le travail a été réalisé dans le cadre d'une maîtrise en ergothérapie de la première autrice. Donc, encore une fois, dans un contexte québécois. Donc, on peut dire qu'il y a peut-être un manque d'ancrage de la part des autrices sur le contexte politique français. Même, par exemple, en termes de financement. Il est noté dans l'article qu'il est difficile de financer des actions qui soient à la fois médicales et sociales, Or, les pratiques médico-sociales sont très financées aujourd'hui en France. Il existe énormément de structures sous ce format, mais avec une approche individuelle dans les communautés, plus comme le présente le premier article de cette série sur les CLSC. Il y a aussi plusieurs fois où je n'étais pas très à l'aise avec la perspective, ou plutôt le vocabulaire, et ce à quoi ça renvoyait. J'ai trouvé plusieurs fois des confusions entre pratiques communautaires, promotion de la santé, prévention et les actions mises en regard. Bien évidemment, une pratique communautaire tend à faire de la promotion de la santé. Mais il y a aussi différentes façons de faire de la promotion de la santé qui ne soient pas de l'ergothérapie communautaire. Et si on fait de la prévention de la santé, est-ce qu'on est encore dans la promotion de la santé? Est-ce que ces deux éléments sont distincts ou pas? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? C'est vraiment des choses qui m'ont un peu manqué pour vraiment saisir tout ce que voulaient dire les autrices. Si on aborde la partie résultats, l'utilisation du cadre consolidé pour la recherche est très très intéressant et j'ai trouvé ça vraiment dommage quand je l'ai vu apparaître qu'il n'ait pas été présenté plus tôt pour accompagner le raisonnement et pour mieux comprendre la présentation et les implications des résultats. Puis, certaines fois, si je lisais les résultats à part, j'avais juste l'impression que l'on parlait d'une pratique d'ergothérapie de façon générale. J'avais un peu du mal à voir la spécificité avec la pratique communautaire dans les réponses des participantes. Comme par exemple quand on parle du rôle de l'ergothérapeute qui est présenté comme une facilitatrice. C'est une posture qui est encouragée pour tous les ergothérapeutes, afin de favoriser l'autonomie, ou encore quand on parle de l'appui sur la science de l'occupation. Et là, on touche un point sensible pour moi. La science de l'occupation existe certes officiellement via la création du programme doctoral que depuis 1989. Toutefois, les ergothérapeutes n'ont pas attendu cette date pour développer leur pratique. Tout ce que l'on retrouve dans la science de l'occupation, c'est quelque chose qui était déjà présent dans la pratique et dans la formation, et qui a été regroupé sous le terme de science de l'occupation, en raison d'enjeux spécifiques, politiques, académiques et financiers. Donc, la science de l'occupation est un moment important, mais pas une révolution. C'est un point spécifique de notre évolution professionnelle qui marque un passage fort dans notre projet de construire des données probantes, mais ça n'a pas modifié la façon dont les ergothérapeutes pratiquent l'ergothérapie. En bref, ça me donne très très envie de reparler de ce sujet que sont la science de l'occupation. Avant de finir, je voudrais faire un petit récap sur ces trois épisodes, sur cette série autour de l'ergothérapie communautaire. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je ne sais pas ce que ça a pu faire émerger en vous comme réflexion, mais moi je trouve qu'il y a plein de choses assez intéressantes qui ont pu être mises en évidence. En fait, j'y vois déjà le fait qu'une pratique, c'est pas parce qu'elle a un nom qu'on sait ce que c'est. On va bien voir que le vocabulaire employé va être très différent en fonction des contextes sociaux et politiques des pays. Quand on parle d'une chose dans un pays, ça n'a pas de synonyme dans un autre. Et donc il est très très important de vraiment comprendre quel est le vocabulaire qu'on emploie et pourquoi on l'emploie, et puis de faire ce lien entre « moi j'utilise ce vocabulaire pour cette raison et je m'inscris dans telle perspective ». Par exemple, j'aime beaucoup l'idée que dans l'article numéro 2 de Yette et ses collègues, qu'il y ait cette idée de pratique centrée sur la communauté. Je trouve qu'avec notre vocabulaire d'ergothérapeute, ça permet vraiment de comprendre que quand on fait une pratique communautaire selon cette perspective-là, on est dans une perspective, et on pourrait même appeler ça une pratique d'ergothérapie centrée sur la communauté, où on considère que c'est la communauté entière que l'on va accompagner, et pas des individus individuellement. Vraiment, je voudrais mettre un gros point sur cette idée de vocabulaire. Savoir de quoi on parle, pourquoi on en parle, et quand on en parle, expliquer dans quel contexte on s'inscrit. Finalement, ça coûte pas grand-chose. C'est beaucoup moins long que d'expliquer ce que c'est que l'ergothérapie à des gens qu'on rencontre. Donc juste, c'est important de dire on fait ça et on s'inscrit dans quel cadre. C'est en lien de toute façon, mais l'importance aussi de la perspective, de vers quoi on tend quand on veut faire ça? Est-ce qu'on fait de la promotion de la santé? Est-ce qu'on fait de la prévention de la santé? Est-ce qu'on veut réduire les inégalités sociales de santé? C'est plein d'éléments qui ont été abordés sous différentes formes dans les trois articles, mais qui disent un peu tous la même chose. On veut agir sur des populations, dans des populations, avec des populations. Et qu'est-ce qu'on veut au final que ces populations fassent? On veut qu'elles aient une meilleure santé ou pas? On veut réduire leurs inégalités ou pas? Et ça, ça va vraiment dépendre en fonction de la façon dont on agit. Et toutes les interventions qu'on va mettre en place vont avoir des perspectives différentes et donc des répercussions différentes. Et je trouve ça intéressant, au travers de ces trois articles, de voir que sur trois fois, des perspectives différentes. L'importance du contexte, ça c'est sûr. Et on en a parlé là, et on en a parlé avant. Mais le contexte socio-économique, culturel et politique est indissociable d'une pratique de ce genre. Indissociable de tout, j'aurais envie de dire. On est forcément influencé par la politique d'un pays, quelle que soit la pratique qu'on ait, et encore plus quand on est des professionnels de santé. Les politiques et les actions politiques en santé ou sociales vont avoir des répercussions directes sur notre travail, vont être un frein ou un levier, et sur lesquels il est très difficile d'agir, parce qu'on est ergothérapeute et que c'est pas notre habitude d'être politisé dans ce regard-là. L'importance de ce contexte est à prendre en compte. Et c'est pas parce qu'on peut pas agir dessus qu'il faut le mettre à la porte. Il faut savoir. Il faut savoir qu'il y a des choses qu'en France, on ne peut pas faire parce que le contexte sociopolitique ne nous permet pas d'avoir accès à ça. Qu'on peut lutter, on peut essayer de militer, on peut vouloir faire évoluer les choses vers ça, que ce soit à l'échelle individuelle dans notre propre institution ou ailleurs, mais c'est pas... c'est inhérent. On ne peut pas faire sans. Donc, maintenant qu'on sait qu'on ne peut pas faire sans, est-ce qu'on choisit de faire avec ou alors de lutter pour faire évoluer. Et si je peux terminer sur une petite note qui me fait plaisir, c'est vraiment de vous inviter à lire ou réécouter, mais peut-être vous avez marre de m'écouter tout le temps, mais l'article, l'épisode précédent, avec l'article de Yette, centré sur la communauté. Je trouve vraiment qu'il offre des pistes d'action exceptionnelles. Je trouve vraiment qu'il y a une vision très intéressante, et qu'on pourrait peut-être même penser à construire ça en France, mais pas tout seul. L'idée, si on veut faire de l'ergothérapie communautaire, c'est qu'on veut travailler au niveau de la communauté. Mais on peut pas venir tout seul avec son petit baluchon pour le faire. Donc, ce serait vraiment très intéressant de pouvoir construire un réseau, de construire quelque chose, de pouvoir discuter ensemble pour militer vers ce type d'action en France. Je ne sais pas. Est-ce que ça intéresserait des gens? Je ne sais pas. À vous de me dire. Mais voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette série. J'espère qu'elle vous a plu. Et j'espère qu'elle vous a intéressé. Peut-être même qu'elle vous a apporté des connaissances supplémentaires avec lesquelles vous allez évoluer dans votre pratique professionnelle. Voilà, l'épisode est terminé. Pour conclure, je voudrais remercier tous et toutes d'écouter le podcast et de faire grandir le réseau. J'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à partager vos remarques, vos réflexions, vos commentaires, que ce soit en privé ou au travers des différents réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à partager et à nous aider à faire grandir le réseau. Le collectif Occupe ton Ergo se veut semeur d'ergo réflexion. Alors, c'est aussi à vous de jouer. Et surtout, merci.